France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Laure Murat. Je viens de lire votre ouvrage « Toutes les époques sont dégueulasses » que j'ai trouvé aussi passionnant que remarquable. Vous abordez des sujets qui sont hautement inflammables. J'y suis moi-même confrontée dans le cadre de mon travail et votre ouvrage, sa clarté et puis l'intelligence de son propos m'a permis, il me semble, de tout appréhender de cette complexité de façon bien plus nette, avec un bon sens bien mieux assis, et vraiment je vous en remercie.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Que faire avec ces œuvres populaires ou dites classiques qui diffusent des stéréotypes racistes, antisémites, sexistes, dont il est plus que jamais nécessaire de se débarrasser? Voilà la grande question qui agite votre Book Club aujourd'hui, qui agite aussi quelques vifs débats contemporains, en France et ailleurs, aux États-Unis par exemple, et qui agite enfin, en tant qu'il la prend au sérieux et précisément, le dernier petit livre de Laure Murat. Elle y parle réécriture, usage et mésusage des préfaces, modifications cosmétiques, censure d'État et histoire des oppressions. Laure Murat est notre invitée. Petit livre, vaste sujet. Ensuite, et comme chaque semaine ces temps-ci, nous retrouvons Mohamed Bougarsar qui sort des ouvrages de sa bibliothèque en écho avec l'actualité aujourd'hui. Optimiste et un peu fou, il tente de conseiller un roman sud-africain à Donald Trump. Et en fin d'émission, nous jouons au grand jeu des pages musicales, à chercher, trouver de la musique dans les livres. Nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Laure Murat.
Bonjour Marie Richeux.
Votre livre « Toutes les époques sont dégueulasses » sont sous-titrés « Réécrire, sensibiliser, contextualiser ». Il a paru aux éditions Verdier. Soyez la bienvenue dans le Book Club.
Merci.
Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que nous avons eu la chance d'être accueillis dans votre bibliothèque. C'est un épisode qui se réécoute à l'envi. Vous y parliez de votre lecture et relecture essentielle de Marcel Proust, mais aussi de vos lectures actuelles autour de la condition animale ou encore un texte sublime de Sadia Hartmann. Donc, pour ce qui est de notre habituel rendez-vous du début qui s'appelle le questionnaire lecture, je renvoie pour une part à ce très bel épisode de votre portrait de bibliothèque à réécouter sur franceculture.fr, mais on vous pose quand même la première question de ce questionnaire. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, comment, peut-être avec qui et dans quel paysage vous avez appris à lire Laure Murat? On vous la pose d'autant plus volontiers que la collection dans laquelle vous publiez chez Verdier s'appelle « Les arts de lire » et que chez vous c'est tout un art.
Ben, j'ai un peu honte de l'avouer, mais je n'ai aucun souvenir de ces débuts de lectrice, de l'apprentissage. Mais heureusement, j'avais quelqu'un vers qui me tourner, puisque la dame qui m'a élevée, ma nurse, ma gouvernante, entre dans sa 100e année, et elle a une bien meilleure mémoire que moi.
C'est beau à entendre.
Et elle m'a dit, définitive, elle m'a dit « tu as appris à lire à 6 ans ». Alors j'étais extrêmement vexée parce que je trouvais que c'était très tard.
C'est normal, Laure Murat.
Ah bon?
Ouais, grosso modo, c'est à peu près l'âge. Oui.
Enfin, j'ai fait quoi?
C'est commun. Ça vous déplaisait que ce soit aussi commun?
Mais oui, je lui dis quoi? Alors là, elle m'a fait cette phrase magnifique. Elle m'a dit, écoute, tu as qu'à dire 5 ans parce que de toute façon, tu étais très en avance pour parler. Voilà, donc on n'a qu'à dire 5 ans. Mais c'est tout ce que je sais. Je me souviens de lectures très, très précoces qui étaient Les Trois Petits Cochons. Je crois que j'en ai tiré une sorte d'obsession de la maison, du décor, de la solidité de la maison.
Vous êtes plutôt du genre à bâtir vos maisons de quelle matière alors?
Oh, dans la brique.
Dans la brique.
Ouais,
il faut que ça tienne. Il faut que ce soit solide. On parle de ce questionnaire lecture, de cette première question traditionnelle, mais aussi du titre de cette collection, Les Arts de Lire. Il y a plein de moments dans la vie où on apprend à lire. Il se trouve que vous êtes aussi professeur d'université, que vous avez enseigné, là vous revenez notamment des États-Unis, vous avez enseigné très longtemps. À quel moment vous avez eu le sentiment d'apprendre ou de réapprendre à lire dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça un peu clés où vous avez affiné votre art de lire Laure Murat?
Ah oui, je pourrais citer des étapes, par exemple. Je pense que autour de l'âge... Bon, j'ai toujours aimé lire depuis le plus jeune âge, même si je me souviens pas quand, mais je sais que entre 20 et 30 ans, je lisais peut-être un livre par jour. J'étais très, très vorace. Et je lisais insatiablement, vraiment. Et je pense qu'on se construit à cette époque-là. Et évidemment, au moment d'enseigner, moi j'ai enseigné très tardivement, je suis allée aux États-Unis, j'avais 38 ans, et donc j'ai enseigné, autour de la... Enfin oui, à 40 ans à peu près, donc tard. Et là, j'ai réappris à lire parce que enseigner, c'est donner du désir. Et ça, c'est très compliqué de donner du désir. Mon désir, je le connais. Et je sais pas si je le il me gouverne, plus exactement. Mais comment on fait auprès de jeunes gens qui passent quand même beaucoup de temps sur leur téléphone portable, qui sont pas nécessairement passionnés par Victor Hugo? Alors, il faut trouver des astuces. Et c'est très passionnant. C'est pas du tout dégradant. Au contraire, c'est de retrouver au service d'une population qui n'a pas ma culture et qui n'a pas mon âge, le désir de lire et le désir de comprendre que, comme moi je l'ai compris, que la vie est là, en fait.
Donc pour apprendre à lire aux autres, à ces autres-là, leur Murat, il fallait réapprendre à lire pour vous. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce réapprendre à lire, sachant que vous avez écrit un livre sur la relecture justement et sur toute la place du désir dans la relecture?
Ce que j'ai appris, vous savez, il y a une méthode aux États-Unis, mais qui est appliquée à peu près partout, qui s'appelle le close reading. Bon, il faut donc regarder de très près le texte. Et je ne veux pas employer un mot à contre-emploi, mais disons le déconstruire, en tout cas l'analyser de façon à comprendre, non pas, pas seulement le sens, mais la prolifération du sens, et quelquefois le sens implicite et le dégager du sens explicite. Ce sont des opérations analytiques qui, moi, me passionnent. Alors évidemment, quand on est une lectrice avertie, comme je peux l'être, comme beaucoup de gens, quand on lit beaucoup, etc., on fait cette opération très
sans
rapidement.
Sans le savoir,
sans le savoir,
dire,
ouais. Exactement. On repère tout de suite la virgule qui a été décalée, on repère tout de suite les assonances, etc. Mmh. Auprès de jeunes gens qui lisent essentiellement l'histoire, l'intrigue, il faut leur dire « attention, stop ». Qu'est-ce que c'est que la forme et qu'est-ce qu'elle nous dit? Et ça, c'est un apprentissage. Il faut lire lentement pour ça, et de près.
Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un moment plus récent de réapprentissage de la lecture ou quelque chose qui vous aurait encore et toujours appris à lire, Laure Murat? Vous parlez de cette quarantaine d'années, vous arrivez aux États-Unis, vous enseignez à des jeunes gens. Est-ce qu'il y a eu un tournant dans votre vie de lectrice où vous auriez peaufiné votre art de lire ou modifié votre art de lire?
Alors là, évidemment, je vais revenir à mon obsession, c'est Proust, bien sûr, puisque j'avais entrepris ce livre sur la relecture parce que je ne suis pas une relectrice. Et c'était une opération qui m'intéressait. Puisque
c'est ça que vous êtes allée voir les autres.
Voilà. Et je remarquais qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui relisaient et je voulais savoir pourquoi et comment, etc. Mais enfin, il y en a un que j'ai quand même relu, c'est Proust, et j'ai relu 4 fois dans son intégralité « La recherche du temps perdu ». Il y en a qui l'ont lu 17 fois, hein, c'est pas... voilà. Mais évidemment, à chaque fois que j'ai lu « La recherche », parce que je pense que... je sais pas si relire, ça existe vraiment, hein, on fait une nouvelle lecture à chaque fois. Et c'est vrai que quand vous prenez un seul objet, alors évidemment, c'est celui-là, c'est-à-dire que c'est un monde infini réduit à 7 volumes... on réapprend quelque chose à chaque fois. Ça, c'est certain que dans la recherche, à chaque fois, on approfondit. C'est une lecture qui s'approfondit en permanence.
Mais on réapprend quelque chose du texte ou on réapprend quelque chose de notre geste de lecteur ou de lectrice?
Les deux, je crois. Les deux. Je m'étonne. Alors, c'est vrai que j'ai une mauvaise mémoire, mais je m'étonne quand même à chaque fois que je le relis d'avoir complètement oublié certains passages. Alors, il est possible que quelquefois, comme c'est un livre quand même très dense, on peut lire sans penser à ce qu'on lit. Ça peut arriver.
Bon. Et c'est pas interdit.
Non, c'est pas grave. Alors, c'est possible que ça me soit arrivé, c'est possible. Il y a plein de possibilités. Mais on a toujours, avec Proust, l'impression, j'allais dire, de progresser, hein, d'aller plus avant dans la compréhension de la vie, des sentiments, de l'analyse psychologique, de ce que vous voulez, et du temps, bien entendu. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça. Hein. Proust a cette phrase merveilleuse, il dit « nos vies si peu chronologiques ». Eh bien là, on n'est pas dans la chronologie, on est dans la temporalité. Et évidemment, à chaque fois, on s'interroge sur la femme de 20 ans qui lisait ça, celle de 35, celle de 45, etc. Et ça aussi, ça nous permet de s'enfoncer dans les couches du temps et dans les couches du temps de sa propre histoire, bien sûr.
Lire de près, qui est la première chose que vous avez dite quand j'ai parlé des arts de lire et de votre apprentissage de la lecture, Laure Murat, c'est vraiment ce que vous proposez de faire. Lire de près, parler de près, penser de près, penser avec des termes précis dans votre dernier texte, Toutes les époques sont dégueulasses. Faut-il réécrire les classiques? C'est la question qui met en route votre pensée, laquelle s'attache à la traiter vraiment sérieusement, sans éluder la passion des débats qui sont rattachés à ces questions, mais en examinant vraiment les arguments, les motivations explicites, implicites des uns, des autres, et on va dire aussi l'efficacité des démarches qui sont mises en œuvre du point de vue de l'écriture, de la publication, étant entendu que s'il y a quelque chose qui ne fait pas débat dans votre texte, c'est bien la transformation nécessaire encore et toujours de nos sociétés pour lutter toujours plus efficacement contre le sexisme, le racisme, l'antisémitisme et ce qui reste de la pensée coloniale dans notre monde contemporain. Votre grande question, c'est comment ? Et c'est ça qui est intéressant. Comment et avec quelle efficacité pour ce qui est du domaine de la littérature ? Et vous êtes méthodique, Laure Murat. Vous prenez les termes, comme on dit aujourd'hui, et vous proposez une distinction. Puisque la question, c'est faut-il réécrire ? Vous proposez d'abord de dire, eh bien, il y a réécriture et réécriture. Alors, commençons par là. Quelle est la distinction que vous faites entre ces deux gestes-là ? Et peut-être prenons des exemples pour les illustrer.
Alors, j'ai profité d'une double orthographe du même mot. Après, je leur donne un sens précis, mais qui n'appartient qu'à moi. On ne le trouvera pas dans le dictionnaire. Donc, réécrire en français, ça peut s'écrire réécrire avec deux « et » ou « récrire ». Et donc, je profite de ce doublon, en quelque sorte, pour distinguer la réécriture, qui serait un geste à visée esthétique, qui consiste, par exemple, à réécrire Phèdre d'après Euripide, hein, ça c'est Racine, qui réécrit Phèdre en alexandrin et en français à sa façon, bien entendu. C'est Joyce qui réécrit Homère avec Ulysse. Mais c'est aussi une adaptation de Carmen de Mérimée par Bizet, par exemple. Ça peut être une traduction. La traduction est une transposition. Tous ces gestes-là sont des transpositions d'un objet A en un objet A prime. Mais sa visée est esthétique.
Artistique, esthétique.
Artistique, esthétique. Ça, je crois que tout le monde serait d'accord avec ça.
Donc à la question, faut-il réécrire les classiques ? On pourrait régler rapidement la question, Laure Murat, en disant oui, évidemment, faisons-le, ne nous privons pas, inventons, créons à l'infini, c'est l'histoire de la littérature.
Puisque le soi-disant original est toujours un texte qui est réécrit à l'infini.
Et lui-même hybride et fait de milliards de choses, donc allons-y gaiement.
Allons-y gaiement et supprimons les mots qui fâchent, le mot nègre, le mot salope, le mot etc. Tous les mots qui fâchent et qui heurte à juste titre ce qu'on appelle les minorités. Sauf que cette opération de pasteurisation n'a pas une visée esthétique. D'ailleurs, elle ne prétend pas avoir une visée esthétique puisque c'est une visée morale, voire moralisatrice. Donc c'est ça ce que j'appelle la réécriture avec un seul « et » qui a pour fonction de rendre les textes anciens, enfin les classiques, conformes à notre idéologie contemporaine. Alors, on peut discuter la validité de cette opération, mais le point de départ, c'est de distinguer ces deux opérations, parce qu'on essaye de nous faire croire que c'est la même chose, que oui, puisque les classiques ont toujours été réécrits, comme vous venez de le dire, allons-y gaiement. Mais ce n'est pas un geste de la même nature et de la même fonction.
Prenons un exemple. Prenons Agatha Christie, qui est un des premiers exemples que vous citez, Laure Murat.
Oui.
Et notamment l'exemple du titre. Parce qu'une des choses qui vous fait critiquer le processus de réécriture, donc bien le deuxième exemple que vous citez, c'est de dire que ça n'est pas logique, c'est non exhaustif et au final, ce n'est pas très honnête parce que ça n'est pas efficace. Alors prenons « Dix petits nègres » d'Agatha Christie, dont le titre a été, dans plusieurs pays, puis en France, modifié.
Et je dirais à juste titre. Alors, il faut malheureusement repartir un petit peu en arrière.
Aucun problème, soyons précis.
Le roman d'Agatha Christie, qui est formidable d'ailleurs, est fondée sur une chanson qui s'appelle « Les dix petits nègres » et qui raconte l'histoire d'enfants noirs qui meurent les uns après les autres. Et c'est une comptine pour apprendre aux enfants à compter à rebours.
Bon. Jusqu'à la disparition
totale
du dernier petit enfant noir.
Du dernier petit enfant noir. Donc on a remplacé le titre par une phrase qui est dans la chanson en question et qui est « Ils étaient dix ». Alors, en anglais, c'est « And then there were none », et puis il n'y en avait plus, voilà.
Qui est la fin de la chanson.
Qui est la fin de la chanson. Bon, « Ils étaient dix », pourquoi pas. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à voir le mot « nègre » sur une couverture. Bon. Mais évidemment, après, il faut changer le reste, parce que sinon, ça n'a plus aucun sens. Alors, retracer cette histoire, c'est intéressant parce que, assez rapidement, l'accusation de racisme s'est fait jour. Mais on n'a rien trouvé de mieux de remplacer les dix petits nègres par les dix petits indiens, ce qui n'était pas beaucoup mieux. Ensuite de ça, alors on arrive à « Ils étaient dix » et aux modifications plus récentes, en supprimant un certain nombre de mots qui fâchent, donc le mot nègre est supprimé partout.
Cette fois à l'intérieur du texte.
À l'intérieur du texte. Ce ne sont plus dix petits indiens parce qu'on s'est bien rendu compte qu'en gros on avait fait la même
c'était
chose.
C'était pas moins raciste.
C'est pas moins raciste. Et c'est les dix petits soldats. Bon, très bien. On est obligé évidemment de modifier le texte puisque Agatha Christie nous dit que l'île ressemblait au profil négroïde. Voilà. Bon, donc tout ça, il faut le changer. Jusque-là, c'est pas tragique, si vous voulez, dans le sens du texte. Mais quand on va un peu plus loin, on voit bien que les sensitivity readers, donc ces lecteurs sensibles qui sont chargés de lisser les textes, s'arrêtent à certains endroits. Il y a des remarques racistes qui sont absolument laissées pour telles. Enfin, et en plus, en truquant ce texte de plus en plus, on aboutit à un texte qui serait hostile à l'idéologie coloniale que Agatha Christie soutenait et qui avait sa faveur. Donc, on aboutit, alors, un, à un mensonge historique, et deux, à un contresens, ce qui me paraît embêtant. Pourquoi ? Parce que quand vous enlevez l'objet du débat, vous dérobez quelque chose qui est très important et vous privez les opprimés de l'histoire de leur oppression. Alors, vous enlevez toutes les remarques sexistes dans James Bond et on ne comprend plus rien à la misogynie des années 50. Donc, vous accouchez d'une falsification qui est une erreur historique.
Et donc, dans ce geste de réécriture, Laure Murat, que vous critiquez, vous, dans votre livre, il y a quelque chose de la falsification du monde qui nous aurait précédé, ce monde dans lequel Agatha Christie, conservatrice et soutenant l'idéologie coloniale et une idéologie raciste, produit un texte. Et vous vous dites, il faut pouvoir lire ce texte en tant que tel, en tant qu'il a été écrit par cette femme qui pensait cette chose-là et savoir ce que l'on en pense aujourd'hui. En revanche, vous n'êtes pas complètement hostile à l'idée que l'on puisse retirer le mot « nègre » de la couverture. Pourquoi ? Parce que c'est continuer à faire circuler ce mot-là dans l'espace public. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, du coup, des enfants, des adolescents, des adultes, nous tous, nous toutes, qui voyons ce titre-là dans la librairie, dans la bibliothèque de quartier, éventuellement dans le CDI du collège, ça n'est pas inoffensif.
Non, c'est pas inoffensif. Et il y a un impact qui est grave, je crois. Maintenant, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes jamais allé dans une cour de récréation, les insultes qui fusent, je ne suis pas sûre que c'est en enlevant le mot nègre dans Agatha Christie qu'on va vraiment améliorer les choses.
Mais à ce compte-là, on ne fait rien.
Exactement.
Donc à un moment donné, il faut aussi se dire,
voilà.
À ce compte-là, on ne fait plus rien. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les enfants sont cruels, horribles, racistes et sexistes entre eux qu'il faut continuer à publier des textes où il y a marqué « dix petits nègres » dessus.
Bien sûr. Alors, « nègre » est un mot intéressant parce que, bon, vous savez qu'on dit le « n-word » en Amérique, aux États-Unis, pardon. C'est un mot tabou. Mm. En français, que je sache, on n'a pas de mot tabou de la sorte. Mmh. Alors, je ne vois pas bien un livre avec le mot « youpin » sur la couverture. Mmh. Ce serait impensable aujourd'hui. Donc, je pense que il est bon qu'il soit impensable de mettre le mot nègre sur un livre. Ça, je le pense. Mais pour la suite, là, je suis très dubitative. Et je suis beaucoup plus favorable, mais je ne veux pas aller trop vite dans notre conversation, aux préfaces, bien sûr, à l'appareil critique, et pour expliquer comment ces textes-là sont nés dans un contexte précis et qu'on est capable aujourd'hui d'en parler et de le situer.
On va y parler dans un instant de l'usage ou du mésusage ou du non-usage suffisamment important de la préface à votre goût, Laure Murat. Mais peut-être pour conclure sur cette question de l'inefficacité, au final c'est surtout de cela dont vous parlez. C'est-à-dire, vous dites extirper ici ou là un mot insultant, un adjectif désobligeant, c'est sortir des poissons crevés d'une eau de toute façon empoisonnée. Je cite votre texte parce que vous dites, une fois qu'on a retiré quelques mots, en fait on n'a rien retiré de la structure idéologique qui sous-tend telle ou telle intrigue, et vous citez Agatha Christie, mais vous citez d'autres textes où vous dites, de toute façon, cela ne sera que modification cosmétique. Pour terminer avec la question de la réécriture, vous le situez aussi dans un contexte contemporain où souvent il y a des histoires de gros sous, et vous dites, il n'est pas anodin de voir que telle réécriture de cet ordre-là a été faite avant de vendre des droits à Netflix pour pouvoir réimprimer et diffuser ce texte dans telle ou telle société. C'est que vous dites, en plus d'être inefficace, ça se cache sous une moralité alors qu'en fait c'est purement capitaliste.
C'est-à-dire que, et ça arrive quelquefois dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'il y a une collusion malheureuse entre...
Des intérêts divergents.
Ah oui, des intérêts divergents, mais qui finalement aboutissent à la même chose. Alors, dans le cas qu'on cite, bien sûr, ce sont les antiracistes militants bien intentionnés et sincères qui se retrouvent, au fond, contribuer de la même façon au projet, alors là en revanche, du capitalisme le plus sauvage, qui est de dire, on va nettoyer les textes de Roald Dahl, de Ian Fleming et d'Agatha Christie pour continuer à les vendre parce que c'est la poule aux œufs d'or et qu'au bout d'un moment, on va nous dire non, mais écoutez, ça va pas du tout, c'est trop ringard, c'est trop raciste. Alors, ce genre de collusion, elles sont pas très courantes, mais ça peut arriver. Moi, je me souviens que Jean Houry, qui était un homme que j'ai beaucoup admiré et connu, j'ai eu la chance de le connaître. Donc, Jean Houry, je rappelle que c'était le fondateur de la clinique de la Borde.
Psychanalyste.
La psychiatrie.
L'antipsychiatrie et la...
La psychothérapie institutionnelle.
Merci.
Voilà. Et non, c'était justement pas l'antipsychiatrie.
Exactement, pardon.
Alors l'antipsychiatrie, on s'écarte pas trop du sujet quand même, elle était incarnée par un psychiatre italien qui s'appelait Basaglia, et Basaglia était pour l'abolition des asiles. Et Jean Houry m'avait fait remarquer, mais il m'a dit, l'antipsychiatrie travaille main dans la main avec l'État ultralibéral. Parce qu'en effet, au même moment, Ronald Reagan, aux États-Unis, voulait supprimer tous les asiles. Mais évidemment, pas pour les mêmes raisons. Donc, quelquefois, il y a des collusions entre la gauche et la droite, ou l'extrême gauche et l'extrême droite, qui sont malheureuses, mais qu'il faut savoir identifier.
Il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est que vous faites une différence entre les titres des livres, l'intérieur des livres et les titres des tableaux. Petite parenthèse, mais juste pour dire que, par exemple, il vous paraît intéressant, pertinent, voire nécessaire de modifier les titres des tableaux, Laure Murat, dans certains cas. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi est-ce que ça fait différence selon vous? Moi, ça me fait penser à un très beau texte de Robin Cost-Lewis qui a écrit Le Voyage de la Vénus Noire, où elle fait une litanie comme ça des titres de tableaux, où elle recherche les corps de femmes noires morcelées. Et il me semble que c'est intéressant de s'arrêter sur la différence entre les titres des livres et les titres des tableaux.
Eh bien, pour une raison déjà importante, c'est que dans 90% des cas, tous les historiens de l'art vous le diront, ce n'est pas l'artiste qui choisit le titre, c'est le conservateur, en général, au 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc, ça n'a rien de quelque chose qui serait...
Esthétique ou artistique?
Ben non. C'est donc très, le plus souvent, c'est dans les salons, il fallait bien nommer plutôt que par un numéro les tableaux, on leur donnait un titre, l'arbre dans la forêt, enfin, enfant assis, nègre accroupi, etc., etc. Donc là, il n'y a aucune raison pour qu'on ne dise pas noir accroupi plutôt que nègre accroupi. Ça, non. ça n'a pas, c'est une fois de plus, ça n'a pas la visée esthétique que peut avoir une phrase composée par un écrivain.
Dans le sous-titre de votre livre, il y a ce verbe contextualiser. Vous vous attardez sur la nécessité d'écrire des préfaces, d'avoir des appareils critiques, d'être extrêmement précis. Vous le faites notamment en prenant l'exemple de Tintin au Congo, d'Hergé. On va écouter un extrait d'un reportage diffusé en 2007.
La polémique est relancée sur Tintin au Congo. Un étudiant congolais demande son retrait des ventes. Il dénonce une œuvre raciste et il saisit la justice belge. Les défenseurs de Tintin invoquent le contexte des années 30 et ils en appellent à la protection de l'œuvre artistique. Chantal Panatier.
Qui aurait cru que Tintin au Congo serait traité de brûlot ?
Ces livres, il sera brûlé. Il sera brûlé, on n'en veut plus parce que pour nous c'est une honte, c'est une insulte.
Bienvenue Mondono a porté plainte devant la justice belge. Il veut que cet album soit retiré des librairies parce que raciste et rempli de propagande colonialiste.
On voit bien son chien qui qualifie ses villageois de paresseux parce qu'il ne voulait pas aller travailler. Moi je pense qu'il y a des limites dans certains comportements et ce que je condamne plus c'est la commercialisation de cette bande dessinée et en train de faire une propagande qui est tout à fait dangereuse pour les jeunes enfants.
Depuis 1930, 200 millions d'albums ont diffusé les préjugés du milieu bourgeois dans lequel vivait Hergé. À cette époque, la Belgique colonisait le Congo.
Le roi Léopold, dès que vous connaissez très bien, il a tué au moins plus de 15 millions de Congolais. Normalement, les responsables belges n'ont même pas l'amour, même pas pitié des peuples congolais, après avoir fait du mal jusqu'à ce niveau-là.
Hergé traduit en justice.
Tintin est-il raciste ?
C'est une question très dure, très directe. Hergé a toujours dit que Tintin n'était pas raciste comme lui n'était pas raciste, mais il a avoué que l'album Tintin au Congo est très paternaliste.
La Grande-Bretagne et l'Amérique l'ont déjà fait disparaître de leur librairie.
Il y a eu Tintin au Congo, je le reconnais. C'était en 1930. Je ne connaissais de ce pays que ce que les gens en racontaient à l'époque. Les nègres sont de grands enfants. Heureusement pour eux que nous sommes là. Et je les ai dessinés, ces Africains, d'après ces critères-là, dans le plus pur esprit paternaliste qui était celui de l'époque en Belgique. Pour le Congo, tout comme pour Tintin au pays des Soviets, il se fait que j'étais nourrie des préjugés du milieu bourgeois dans lequel je vivais. En fait, les Soviets et le Congo ont été des péchés de jeunesse. Ce n'est pas que je les renie, mais enfin si j'avais à les refaire, je les referais tout autrement, c'est sûr. Et puis quoi qu'il en soit, à tout péché miséricorde. Pour le reste, mes Noirs ne sont ni ridicules ni bafoués. Ou s'ils le sont, ils ne le sont certainement pas plus que les Blancs ou les Jaunes ou les Rouges que j'ai mis en scène. Mes personnages sont tous des caricatures, ne l'oubliez pas.
Laure Murat, on entendait un reportage en 2007 sur la polémique, je cite, autour de Tintin au Congo d'Hergé. Et juste après, un entretien mené par Nouma Sadoul avec Hergé. Vous faites un long développement autour de ce cas Tintin au Congo. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce cas-là et qu'est-ce qui vous aide à penser cette grande question de faut-il réécrire nos classiques, nos grandes œuvres littéraires ?
Dans le cas de Tintin au Congo, c'est impossible de réécrire, parce qu'il y a le dessin, il y a toutes les bulles, il y a le scénario. Comme je disais tout à l'heure, enfin, vous citiez cette phrase sur les poissons crevés dans l'eau qui est de toute façon intoxiquée, c'est impossible. C'est l'histoire de la lettre et de l'esprit. Mmh. Bon, donc, la lettre baigne dans l'esprit et l'esprit enrobe la lettre. On ne peut rien faire contre.
Alors après. On pourra tout corriger, on n'enlèvera pas l'esprit.
Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ce moment-là ? Moi, j'ai pas beaucoup de principes dans ma vie. J'en ai un, c'est que je suis contre la censure. Vous savez, Bernard Noël écrivait le mot censure avec un S. Hein ? Censure, S-E-N-S-U-R-E. Parce que vous vous privez de sens. Et ça, ça ne va pas. Alors, le cran... le comité représentatif des associations noires, a réclamé à corps et à cri, et je pense tout à fait à juste titre, une préface à Tintin au Congo. Ben ça, c'était une bonne idée, a priori, de replacer tout ça dans le contexte. Malheureusement, si je puis dire, elle a été confiée, alors je ne vais pas dire son titre exact, mais le président des Amis de Moulinsart, qui est un défenseur d'Hergé et qui a surtout à cœur de défendre le grand homme en nous expliquant, ce qui quand même ne fait pas beaucoup avancer les choses, que c'était un homme de son temps. Mmh. Comme je dis souvent, Jordan Bardella, c'est aussi un homme de son temps. Vous voyez, bon. Donc une fois qu'on a dit ça, il est vrai que 8 millions de gens vont à l'exposition coloniale, 4 000 personnes se rendent à l'exposition anticoloniale des surréalistes dans les mêmes années 30. Donc il est certain que c'était la grande majorité qui pensait comme ça. Mais en même temps, vous avez aussi André Gide ou Georges Simenon qui vont au Congo, qui vont au Tchad et qui reviennent en écrivant sur les ravages de la colonisation. Donc, il n'est pas vrai que... C'est toujours l'histoire...
En tout cas, c'est proprement insuffisant de résoudre l'affaire en disant un homme de son temps ou une femme de son temps, parce que c'est une manière de dégager toute réflexion à ce propos.
Oui, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, en quelque sorte. Donc, la préface est habile, parce qu'elle fait montre de beaucoup de... Enfin, elle publie beaucoup d'archives, d'images, etc., pour dire, vous voyez, j'ai vraiment travaillé, etc. Mais tout ça, c'est pour répéter des clichés racistes dont le musée de Tervuren, le fameux musée de Tervuren, était plein, et est encore plein, si j'ai bien compris. Je ne suis jamais allée, donc. Et qui est, au fond, une ode à la colonisation. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. J'ai beaucoup regretté, par exemple, que le préfacier ne fasse aucun effort pour nous expliquer quelle était la représentation des Noirs à cette époque-là dans la bande dessinée. Peut-être que Hergé s'en serait pas mal sorti, finalement, si on avait vraiment eu une analyse de ça. Donc, une préface, oui.
Vous dites aussi qu'il ne mentionne pas, par exemple, que le fameux « parler petit nègre », je mets des guillemets, est une invention coloniale et que vous écrivez, Laure Murat, que des manuels ont inculqué cette langue française réduite en supposant que les populations colonisées ne pouvaient pas accéder à la grandeur de la langue française et que le « parler petit nègre » que Hergé met dans la bouche des femmes et des hommes noirs qu'il dessine et qu'il met en scène est une entreprise coloniale.
Eh ben, j'ai un peu honte de l'avouer, mais je l'ai appris en faisant des recherches pour ce texte. Le parler petit nègre, qui est vraiment, enfin, je veux dire, est une réduction inventée par les colons.
Donc doublement raciste dans
doublement
un sens
raciste
et dans un autre.
Parce que les colons qui posaient comme base que les Noirs ne pourraient jamais accéder à la langue française.
Et donc
c'est eux qui ont fait cette nouvelle syntaxe, ce français réduit, etc. Et
pour le railler ensuite.
Bien sûr.
De manière raciste, en disant « regardez et écoutez comme il parle ».
Voilà. Vous savez, il suffit, ce livre que j'ai écrit est très petit, enfin je veux dire, il est très mince. Il suffit de gratter un peu la surface pour vous rendre compte de l'abîme de complexité et d'hypocrisie qui recouvre tout ça. Et moi, je crois qu'avec une préface, avec un appareil critique, on peut dénoncer ça, et ce qui est beaucoup plus efficace que d'interdire.
On va ensuite aller vers le monde contemporain, mais juste un instant, quand vous dites « ce livre est petit, il suffit de gratter pour découvrir l'abîme », n'empêche que vous vous y lancez, Laure Murat. Alors avec quel esprit de nécessité vous vous méfiez? Je me souviens, je ne sais plus dans quel entretien, vous disiez « c'est jamais facile de publier des textes d'intervention dans une actualité brûlante, clivée, où on attend de nous que nous soyons dans un camp ou dans un autre », et vous y aller quand même. Alors avec quelle nécessité vous y allez, Laure Murat ?
Je sais pas, avec masochisme, j'en sais rien. Avec la nécessité de comprendre, parce que je crois que je suis profondément insatisfaite de la façon dont les questions sont posées. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas le bien, le mal, être pour, être contre, être de gauche, être de droite, etc. Bon, tout ça c'est très bien, c'est très important. la chose importante, c'est de bien poser la question. Or, le plus souvent, la question est mal posée. Et quand j'ai compris qu'on confondait réécriture et récriture, c'est là où j'ai...
Mais est-ce qu'on confond vraiment ou est-ce qu'il y a de la malhonnêteté intellectuelle en disant qu'on confond ? Parce que les gens qui disent, les gens qui répondent à la question de la réécriture des classiques en disant « oui, mais l'histoire littéraire n'est que réécriture », enfin, c'est des gens qui font semblant de pas comprendre quel est le problème quand même. C'est des gens qui font semblant de pas comprendre que les textes, les récits, les discours, les représentations esthétiques, la production d'un imaginaire d'une société raciste produit un système et ce système est agissant. Enfin, c'est quand même des gens qui font un peu semblant leur murat. De pas comprendre. Non ?
Je vous laisse la responsabilité de cette assertion. Je ne sais pas. C'est peut-être un artifice intellectuel pour ce... Vous savez, il y a la tyrannie du sens hein, aussi, à laquelle on cède très volontiers. C'est-à-dire que si on a un principe qui est « oui, la réécriture est possible », alors on embrigade absolument tout ce qu'il y a autour de nous pour faire rentrer ça là-dedans, en arguant en plus qu'on a toujours réécrit les textes, mais c'est pas parce qu'on a toujours fait des bêtises qu'il faut les continuer. Vous voyez, il y a en effet des livres qui ont été censurés ou amendés, en tout cas, par des éditeurs.
Ou par les auteurs eux-mêmes, vous citez d'ailleurs, et qui sont des arguments qui sont brandis en disant, bah, vous voyez bien, si Roald Dahl, dont vous expliquez que à bien des égards, notamment sur le texte des sorcières, il y a des propos parfaitement antisémites, vous dites bien que Roald Dahl a accepté d'être réécrit, y compris par lui-même, alors ça autoriserait les réécritures cosmétiques produites sur ses textes à lui, leur Murat.
Alors, bon, peut-être que je sacralise l'auteur, j'en sais rien, mais en tout cas, il me semble qu'il est responsable de son texte. Quand on sait le soin que les auteurs apportent à leur texte, je pense que c'est tout de même à eux de dire oui ou non. Du vivant de Roald Dahl, c'est une chose, mais après... Et puis surtout, où placer le curseur ? Parce qu'une fois que vous avez commencé, où est-ce que vous vous arrêtez ? Et d'ailleurs, c'est bien ça le problème des réécritures, parce que quand j'analyse par exemple James Bond, alors je vois que tout ce qui concerne les Noirs a été arrangé, mais les Coréens sont traités comme des inférieurs aux singes. Et ça, on le laisse. Pourquoi ? Et la même chose, évidemment, pour le viol, pour etc., etc. Donc, on fait des petits trafics, que je trouve un peu médiocres, en gros. On laisse passer des énormités. Dans tous les cas que je cite, c'est vrai. Mais évidemment, ça demande beaucoup de temps que de relire l'édition originale, la version amendée, etc. Et à la fin, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire là exactement ? Qu'est-ce qu'on est en train de nous fabriquer ? Et à partir du texte amendé, dans 30 ans, qu'est-ce qu'on va en faire ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la poutre que j'ai dans l'œil aujourd'hui et dont tout le monde va rigoler dans 30 ans.
Non, on va passer au monde contemporain, justement, parce qu'évidemment, votre texte, Laure Murat, pose la question de comment on fait maintenant. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à partir de maintenant, notre pays ne sera plus jamais woke. Dans les 47 premiers jours du nouveau mandat du président Trump, des centaines de mots tels que diversité, égalité ou inclusion ont été supprimés des sites Internet gouvernementaux. Cette liste, selon le New York Times, a été diffusée aux agences avec pour prérogative de limiter ou d'éliminer complètement ces mots des sites web destinés au public. Des termes tels que « noir », « femme », « amérindien », « énergie propre », « discours de haine » ou encore « golfe du Mexique ».
Alors, on entend ici le vrai danger, selon vous, Laure Murat, dans votre texte « Toutes les époques sont dégueulasses » paru chez Verdier. Une fois que vous avez traité méthodiquement tous les exemples que l'on vient d'évoquer, vous dites « s'il y a danger réel, c'est bien la suppression de certains départements de sociologie dans les universités par pure haine, dites-vous. C'est bien l'interdiction de certains mots, de certains sujets de recherche. Ce serait dire que faut-il réécrire nos classiques ? C'est une fausse question qui nous détournerait d'un vrai danger.
Oui, oui, je vraiment profondément, je le crois. Je pense que supprimer des mots, c'est dangereux. Voilà, pour dire les choses très simplement, c'est dangereux. On ne comprend plus ce qu'on lit. Et ce que fait Donald Trump, évidemment, je ne vais pas mettre ça en miroir, ce serait ridicule. Mais pensez quand même que quand on fait des demandes de bourse maintenant aux États-Unis, on ne peut plus utiliser le mot « femme ». Ce n'est plus un sujet. En revanche, je remarque qu'il y a, je sais pas, 10 jours, une femme a dit le « N-word », quelqu'un l'a filmé. Elle a prétendu avoir été harcelée à cause de ça sur les réseaux sociaux. Et elle a ramassé une cagnotte de 700 000 dollars. Donc, Donald Trump supprime le mot « femme », le mot « diversité », etc., etc. Mais en revanche, il promeut le « N-word » très clairement. Mmh. Et je vois là quelque chose... De toute façon, la suppression des mots, c'est dangereux. Point final. Et je crois que c'est une mauvaise idée, très profondément.
Mais en même temps, vous dites « N-word ».
Ça, c'est très particulier aux États-Unis. C'est très particulier. Il faudrait une émission entière sur le mot « nègre », qu'on peut dire en français dans un certain contexte, parce que il est péjoratif, mais il y a aussi l'art nègre, il y a aussi la revue nègre.
Il y a aussi Dalila Ferrière qui décide de le mettre dans le titre d'un de ses livres parce qu'il décide de le récupérer autrement.
Oui, mais Dalila Ferrière fait ça. Enfin, je parle sous contrôle de gens qui s'y connaissent mieux que moi, parce que nègre, en Haïti, ça veut dire homme. Donc, vous voyez... C'est pour ça qu'il faut du contexte. C'est pour ça qu'on ne peut pas décider comme ça de la suppression de mots pour tordre l'histoire. Si, pardon pour le cliché, mais si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas où vous allez. C'est aussi simple que ça.
Mais alors, une fois que moi j'ai refermé votre livre, Laure Murat, j'ai trouvé la démonstration tellement claire, tellement efficace, et je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Ben alors, on fait quoi ?» En fait, on fait quoi ? On fait quoi si c'est inefficace, insuffisant et malhonnête de réécrire les classiques ? Si ce n'est pas une bonne solution ou pas tout à fait satisfaisante non plus de supprimer un mot d'une couverture, même si on a pondéré ce propos en disant que, par exemple, pour le cas du roman d'Agatha Christie, c'était quand même plutôt intéressant, notamment pour les jeunes générations, que ça ne figure pas sur la couverture. Si on se dit qu'il faut écrire des préfaces, mais que les préfaces, c'est long et que souvent le boulot n'est pas fait. Parce qu'en fait, quand il faut travailler précisément, avec nuance, etc., ou alors c'est fait et c'est pelu, ou alors c'est pas fait. C'est ça que vous dites, Laure Murat. Donc qu'est-ce qu'on fait si on veut continuer à lire des livres, à publier des livres, à penser dans la nuance, si tout ça, et si on veut éradiquer le sexisme, l'antisémitisme, le racisme et la pensée coloniale, ou en tout cas travailler pour un monde qui se transformait dans ce sens, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors... j'ai bien conscience que je propose des solutions. Enfin, je propose même pas des solutions, je lance des hypothèses. La première, évidemment, alors on me dit, elle est simpliste. Je l'assume parfaitement. Si ces livres ne vous plaisent pas, ne les lisez pas. Déjà, ça, c'est une chose.
Mais c'est insuffisant aussi.
C'est complètement insuffisant, je suis d'accord.
D'ailleurs, on se rend compte, je voyais en lisant la presse, qu'il y a une partie notamment de la frange qu'on va vite, très très vite appeler conservatrice en France, qui va se régaler de cette phrase, Laure Murat. Qui va se régaler de...
Bien sûr,
qui va se régaler de la phrase, si vous n'êtes pas content, ne lisez pas, fin de l'histoire.
Oui,
et il y a pas mal de gens qui vont être contents avec cette assertion-là.
Bien sûr, bien sûr. Il y a un effort pédagogique à faire. Il y a peut-être aussi la révision du canon. Ça, je n'en parle pas dans le livre.
Si, vous en faites mention à la toute fin. Vous dites une des solutions, c'est la révision du canon. Ou alors vous en parlez dans la presse, je me suis trompée.
En fait, vous avez raison. Avec Ourika, par exemple. Voilà, je cite le cas d'Ourika, de Claire de Duras. C'est un cas très intéressant.
Vous travaillez en classe. C'est intéressant aussi ce que vous en faites, d'ailleurs.
Oui, mais bon, le grand public ne suit pas mes cours.
Donc,
c'est un vrai problème pédagogique. Il faut, en effet, alors ça dépend, prenons le cas de la France, ça dépend de l'éducation nationale. Il faut travailler sur ces questions. Qu'est-ce qu'on donne à lire aux enfants? Comment est-ce qu'ils sont encadrés?
Comment
on les commente? C'est une question qui concerne, je ne sais pas, les prix littéraires, par exemple. C'est une question qui concerne les éditeurs, la responsabilité énorme des éditeurs dont on ne parle jamais. Donc, c'est un travail évidemment collectif.
Oui, d'ailleurs, en fait, l'une des réponses, si, quand même, j'ai refermé votre livre, pas que en me disant qu'est-ce qu'on fait, au sens où j'avais l'impression comme ça d'être... L'une des invitations que vous faites, c'est on invente. Ça, c'est votre solution. Elle est belle. On invente. Et donc, par exemple, si on parle des éditrices et des éditeurs, en effet, messieurs, dames, publiez des textes inventifs. Vous citez le texte de Percival Everett qui va être publié en France en 2025, qui réécrit les aventures d'Huckleberry Finn depuis le point de vue de l'esclave. Vous dites, c'est ça notre voie.
Et c'est un livre magnifique. Je cite Pénélope Bagieu qui fait une réécriture de Sacrée Sorcière de Roald Dahl en éliminant toutes les caractéristiques antisémites, où elle introduit une petite fille. Ça, c'est de l'invention. Mais vous receviez, il n'y a pas très longtemps, un auteur que je ne connais pas, qui, je crois, s'appelle Max Lobé.
Auteur
il disait des choses très intéressantes. Et vous-même, vous disiez, vous parliez de cette mémoire renouvelée qu'il faut proposer. Moi, ce que je dis, lisez de la littérature contemporaine de qualité et qui nous propose un monde qui correspond à ce que nous pensons.
Enfin, pas toute la littérature contemporaine, puisque vous dites toutes les époques sont dégueulasses, dont la nôtre. Vous citiez tout à l'heure Jordan Bardella comme un homme de notre temps, sans jugement de valeur. Mais enfin, la littérature contemporaine n'est pas exempte de sexisme, de racisme. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que la littérature... Tout à l'heure, vous disiez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle poutre j'ai dans les yeux. Comment vous faites l'armure avec ça?
Alors, bon, évidemment, là, c'est encore un autre problème. C'est compliqué. Ça vient aussi du fait, si on veut rester en France, que la littérature contemporaine, depuis l'autofiction, est devenue très autobiographique. Le roman est très naturaliste aujourd'hui. Et donc, il y a cet espace qui s'appelle la fiction et cet espace qui s'appelle la réalité. Si, dans l'espace de fiction, vous enlevez toute remarque raciste, sexiste, misogyne, est-ce que vous allez donner une photographie réaliste de notre monde? Probablement pas. Mais évidemment, il faut faire la distinction entre cet espace de fiction et cet espace de réalité. Or, je crois que là est le problème. Et cette question, mais ça serait vraiment trop long, c'est celle de l'autonomie de l'œuvre d'art, de ce statut qu'a gagné l'œuvre d'art depuis le romantisme allemand, c'est-à-dire d'être débarrassé de toute injonction de programmes idéologiques, religieux, moraux, etc. En érigeant l'espace de la fiction, l'espace de l'art...
Comme un espace libre.
Comme un espace de toute liberté. Et moi, j'ai toujours souscrit à ça. Seulement là, on pourrait peut-être se demander si ce statut n'est pas devenu un alibi aujourd'hui, et que c'est comme s'il se tapait la tête contre le plafond. Il y avait une limite aujourd'hui qui est à repenser.
Mais c'est là que c'est intéressant, mais c'est là que c'est plein de vitalité, sauf quand ça va dans des zones d'ombre. Mais c'est-à-dire qu'en effet, comme vous dites, Laure Murat, il y a des personnes qui vont prendre l'alibi de la fiction pour dire, mais il peut y avoir du sexisme, du racisme, de l'antisémitisme, parce que c'est pour de faux, parce que c'est les personnages. Alors, oui, pourquoi pas? Et en même temps, ça se travaille, ça se discute. Parce que les fictions, quand même, faire circuler certaines fictions, on le disait tout à l'heure, c'est faire circuler des versions du monde, des modes d'être, des modes de relations. Et ça n'est pas sans impact.
ça n'est pas sans impact. Et évidemment, vous avez des auteurs qui vous diront « Oui, oui, bien sûr, ce personnage est raciste, il dit sale nègre, etc. » Mais c'est pour dénoncer le racisme. Et c'est ça ce qui a été employé beaucoup au cinéma. « Oui, oui, bien sûr, nous sommes contre le viol. » Et vous avez des viols absolument à tour de bras.
Et ça produit de la représentation.
Mais j'observe aussi, et c'est pour ça que la réflexion doit être menée très en amont, et c'est une réflexion politique. Il n'y a pas un autre mot là. C'est politique que Game of Thrones, par exemple, a tous
une
les
épisodes,
hein, qui enchante les jeunes. Il y a un inceste et un viol par épisode. Mais ça, ça passe. C'est tout ça qu'il faut interroger. Où en sommes-nous de tout ça? Et je crois que, alors c'est peut-être ma confiance aveugle dans la littérature, je crois que la littérature, ou les écrivains, les écrivaines, ont toutes les ressources pour fabriquer un monde nouveau.
D'ailleurs, vous dites qu'il faut d'une certaine manière répondre à la haine de littérature dont vous parlez, Laure Murat, dans Toutes les époques sont dégueulasses, par un amour et par un élan de la littérature. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et comme chaque semaine à cette heure-ci, nous retrouvons Mohamed Bougar-Sarr qui sort des livres de sa bibliothèque en fonction de l'actualité pour la chronique Lecture d'Actu. Bonjour Mohamed.
Bonjour Marie.
Et cette semaine, on essaye, enfin vous essayez franchement, parce que vous êtes optimiste et fou, de conseiller un roman sur l'histoire sud-africaine à Donald Trump, décidément.
Oui Marie, et ne vous désolidarisez pas, vous êtes avec moi dans cette histoire, okay. Soyons fous, puisque notre interlocuteur l'est ou fait semblant. Alors soyons-le ou faisons semblant. Le mercredi 21 mai dernier, dans le bureau ovale, Donald Trump tentait de zelenskiser le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Dans une mise en scène viriliste et judiciaire, il accusait le gouvernement sud-africain d'assister sans rien faire, cette horreur est décidément à la mode, à un génocide en Afrique du Sud où, toujours selon Trump, des hordes de noirs tueraient des fermiers blancs et les exproprieraient de leurs terres. Et en guise de preuve, pour appuyer ces massacres d'Afrikaners, Trump de brandir des articles, des images, des vidéos, dont on découvrira par la suite qu'ils constituent en réalité un tissu de fake news et d'approximation. On commence à avoir l'habitude de ces grossières et dangereuses simplifications avec cet homme, l'anti-lecteur par excellence. Sur la violence de la société sud-africaine pendant l'apartheid ou post-apartheid, on pourrait lui conseiller le cruel et sombre Disgrâce de Kurt ou plus ancien, l'ample et magistral Une saison blanche et sèche d'André Brink. On aurait pu mentionner la poésie de Ndiabulo Ndebele ou un de ses romans, Le Lamento de Winnie Mandela. La fille du burger de Nadine Gordimer, par son acuité et sa lucidité politique, l'aurait éclairé. Mais j'ai choisi un autre livre pour notre fol optimisme. Et ce livre est traduit de l'anglais aux splendides éditions québécoises Mémoire d'Encrier. Il s'agit de Mère à mère de l'écrivaine sud-africaine Sindiwe Magona, une femme noire, et ce détail compte.
Vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi, Mohamed, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce texte qui donne envie aux personnes qui nous écoutent, et peut-être Donald Trump en fait-il partie, de le lire ce texte?
Alors, cher Donald Trump, la ligne narrative de Mère à mère est d'une trompeuse simplicité. Une femme dont l'enfant a tué celui d'une autre femme écrit à cette dernière « Mon fils a tué votre fille » est la première phrase d'un texte terrible qui oscille entre la confession épistolaire, le tableau naturaliste et le monologue intérieur. Mandissa, la mère du meurtrier qui s'appelle Mholisi, s'adresse à l'autre mère, à elle-même, à la société sud-africaine dans toute sa diversité et, en fin de compte, à nous. Que peut dire la mère noire d'un jeune garçon noir, élevé dans la rudesse et la violence d'un township, Gougoul et tout, à la mère d'une jeune femme blanche, une Mlungu idéaliste, militante anti-apartheid, qui s'est retrouvée au milieu d'une foule de jeunes noirs dans un lieu où elle n'aurait pas dû être. Que peut-elle lui dire? Elle peut lui exprimer sa compassion, la compassion d'une mère, mais elle peut aussi lui faire le récit individuel et collectif d'une blessure historique et sociale, d'une violence inter- et intraraciale extrême. Contrairement à ce qu'un ancien premier ministre a soutenu, expliquer n'est pas excuser ici, mais s'élever par l'esprit et par le cœur à une compréhension plus profonde de ce que sont, deviennent et furent les rapports raciaux dans l'histoire sud-africaine. Ce n'est pas parce que Sindiwe Magona est noire, et c'est pour ça que je le précisais tout à l'heure, qu'elle prend complaisamment le parti de Mandissa, la mère noire du jeune meurtrier. La subtilité du roman tient à son refus de l'extrême individualisation de chaque fait, à laquelle il préfère la reconstitution de la chaîne causale politique, sociale et intime qui y a mené. Mandissa n'explique pas. tant dans le récit minutieux de la journée fatidique qui conduisit Mkholisi à commettre son crime, que dans la fresque générale d'un pays qui, à travers les bidonvilles de Gougouletou, sombre dans la barbarie, je songe à la description d'un insoutenable supplice dit du collier. Quel que soit le théâtre, donc, la narratrice maintient un ton de dignité où la colère n'efface pas l'humanité, ni le chagrin l'amour, ni la nécessité de la justice la possibilité du pardon, ni la mort l'espoir. Il faut une langue pour cela qui accomplisse le miracle d'être sobre et poétique, juste. Et c'est ici l'occasion de saluer le travail de la traductrice Sarah Davis Cordova, y compris dans son choix de laisser dans le texte les termes Xhosa ou Afrikaans.
Et cette histoire est d'autant plus frappante pour vous, Mohamed, qu'elle est tirée d'une tragédie réelle, celle d'une jeune américaine blanche, Amy Bill, qu'un jeune sud-africain poignarda en 1993. C'était un an avant que Nelson Mandela mette fin au régime d'apartheid et devienne le président de l'Afrique du Sud.
Voilà un exemple parfait de ce que la littérature peut parfois, au cœur du mal, ne pas renoncer à le comprendre, à le dire. Le meurtre d'Amy Bill s'est déroulé dans un contexte politique et historique singulier. Mère à mère le restitue et, le faisant, interroge le destin de Mkholisi, qui pourrait être tant de jeunes hommes, sud-africains, noirs, brisés par la violence subie de l'apartheid. En somme, le roman, à partir d'un fait réel, a la délicatesse de faire tout ce que Trump et ses conseillers sont incapables d'imaginer. Ils recontextualisent, historicisent, humanisent, savent que dans les convulsions d'une nation, aucune amnésie, volontaire ou non, ne peut advenir sans être une injure à la fois au passé et à l'avenir. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce roman en particulier, au cœur même d'une certitude qui inclinerait à se radicaliser et à essentialiser les hommes. Il questionne les genèses de la violence et admet le tremblement qui dit « Ici se cherche le plus haut sens de notre commune condition ». Et je finis par des mots de Sindiwe Magona qui écrit à propos de Mkholisi « Il avait vu ses lendemains dans les mains noueuses et affamées, tendues vers le brasero, étant de plus belles lurettes. Les corps grelottant au soleil crépusculaire, peu souriant d'une journée d'hiver, longtemps les hommes ont attendu, toute la journée ». Mais la chance n'est pas passée par là, ce jour-là. La chance passe rarement par là, quel que soit le jour. La chance vaque à ses affaires dans cet autre monde, le monde blanc.
Merci infiniment, Mohamed Bougarsar. Votre chronique avait quelques échos avec la conversation qui précédait avec Laure Murat. Vous rappelez le titre du livre que vous conseillez ?
Il s'agit de « Mère à mère » aux éditions Mémoires d'Encrier, traduit par Sarah Cordova Davis, et l'autrice s'appelle Sindiwe Magona.
Lecture d'actu à réécouter sur franceculture.fr. On joue à un jeu dans le book club Laure Murat qui consiste à chercher de la musique dans les livres. Ce sont nos auditeurs ou amis qui nous envoient des extraits. Ici, c'est Cyril qui nous envoie un extrait d'un livre qui s'appelle Adikou, signé Raphaël Red, paru chez Grasset en 2024. On s'est lancé dans une collection coûteuse. Après Atlanta, déjà, il a fallu la suivre dans les dernières plantations de Géorgie. Une ou deux portes d'église ont encadré son dos tendu. Et puis Adikou a voulu voir le Tennessee, dont on a toutes quelque chose, nous aussi. On a testé les endroits où l'on sait très vite dans le regard des Blancs si on est noir ou pas. Adikou a dit « Youpi, c'est cette violence-là, le point de chute. » À cause de la chanson et du whisky et de Kalash et Nino, t'enterré dans un trou comme dans le Tennessee, Adikou fredonnait « Le sang est marron, j'ai bu trop d'Hennessy. » C'était un nouveau kiff de voir si clair.
C'était des haineux, ils m'ont trahi, j'suis trop peiné. J'suis dans la Guinée, presque à 300, j'peux plus freiner. Le sang est marron, j'ai bu trop d'Hennessy. Tu me dis que le compte y est, mais moi je vérifie.
Et s'il y a pas les comptes, on peut t'enlever la vie. T'enterré dans un trou comme dans le Tennessee. Ah, ah, oui, comme dans le Tennessee.
Oh la la, chasse.
Quichta un peu partout, j'en oublie.
Merci beaucoup Laure Murat d'avoir été avec nous. Vous avez dit plusieurs fois qu'il fallait faire d'autres émissions, donc peut-être qu'il faudra faire d'autres émissions à partir de ce bref et si dense et précis livre. Toutes les époques sont dégueulasses, paru aux éditions Verdier. Au son, c'était Dali Yaha à la réalisation. Vivien Demeyer, un grand merci à toute l'équipe du Book Club.
On a grandi dans le deal, on en a fait de la pierre, elle revient des Antilles.
Je suis solo dans la mêlée.
Solo dans la mêlée, ils me haïront autant qu'ils m'ont aimé. Ah, ah, autant qu'ils m'ont aimé. Beaucoup trop chef d'un. calcule pas sur tes mal le CV.
C'était des haineux, ils m'ont trahi, j'suis trop peiné. J'suis dans la Guinée, presque à 300, j'peux.